Vous écoutez, on lit pour vous.
Au cœur de la crise invisible, l'impact de la guerre sur la santé mentale des femmes, un texte de la rédaction paru le 7 avril 2025 sur le site ONU Femmes. En Afghanistan, à Gaza, en Géorgie et en Ukraine, les femmes souffrent de syndromes de stress post-traumatique, de traumatisme, d'anxiété et de dépression, et elles n'ont guère accès à des soins ou à un soutien. Le nombre de femmes et de filles prises dans un conflit armé augmente rapidement. Au cours de l'année écoulée, la proportion de femmes tuées dans des conflits armés a doublé. Celle-ci représente désormais 40% des civils tués. À l'heure actuelle, plus de 600 millions de femmes et de filles vivent dans une zone touchée par un conflit, soit 50% de plus qu'en 2017. Mais si les bombes et les balles font la une des journaux, le traumatisme de la guerre, d'un déplacement de population et de la répression a des effets dévastateurs sur la santé mentale de millions de femmes et de filles. Quasiment toutes les personnes touchées par une crise humanitaire souffrent de troubles psychiques. Environ une personne sur cinq souffrira de troubles mentaux à long terme, comme la dépression, l'anxiété, le syndrome de stress post-traumatique, les troubles bipolaires ou la schizophrénie. Cependant, seuls 2% de ces personnes bénéficient des soins dont elles ont besoin. Malgré ces données alarmantes, la santé mentale ne reçoit que de 1 à 2% du financement mondial de la santé, alors même que la santé mentale et les séquelles psychosociales représentent 20% des problèmes de santé signalés dans les situations d'urgence. Mais l'argent n'est pas le seul problème qui se pose. L'accès aux soins est également un obstacle majeur. Dans les pays à revenus élevés, on compte plus de 70 professionnels de la santé mentale pour 100 000 habitants. Dans les pays à faible revenu, ce chiffre tombe à moins d'un professionnel. À mesure que les guerres et les crises s'éternisent, le nombre de femmes touchées ne cesse d'augmenter, tout comme l'ampleur de cette situation d'urgence. ONU Femmes s'est entretenue avec des femmes qui travaillent en Afghanistan, à Gaza, en Géorgie et en Ukraine pour comprendre l'impact de la crise sur la santé mentale des femmes. En Afghanistan, les femmes ont été effacées de la vie publique et leur avenir réduit à néant. En Afghanistan, le retour des talibans a privé les femmes de leurs droits et de leur identité. Alison Davidian, représentante d'ONU Femmes en Afghanistan, alerte de l'éviscération de l'autonomie des femmes et des filles par près de 4 ans d'innombrables décrets talibans. Les femmes ont été effacées de la vie publique. Aucune femme n'y exerce une fonction de leadership et 98% des femmes déclarent n'avoir qu'une influence limitée, voire aucune influence, sur les décisions prises dans leur communauté. Il y a 3 ans, une femme afghane pouvait techniquement décider de se porter candidate à la présidence. Aujourd'hui, elle n'est même plus vraiment en mesure de décider quand aller faire ses courses, explique Madame Davidian. 68% des femmes décrivent leur santé mentale comme mauvaise ou très mauvaise. Et 8% déclarent connaître personnellement quelqu'un qui a tenté de se suicider, selon un récent rapport d'ONU Femmes. La situation est si grave que le simple fait d'en parler les fait pleurer, déclare Mursalina Amin, fondatrice de l'association Girls Toward Leadership. Elles sont prises au piège. Pas d'éducation, pas de mouvement, pas de possibilité de s'exprimer. tous leurs rêves ont volé en éclats. Et la stigmatisation ne fait qu'aggraver la situation. Elles n'arrivent même pas à décrire ce qu'elles vivent, explique Amine. Toutes les filles afghanes à qui j'ai parlé ont des problèmes de santé mentale, mais elles ne peuvent pas en parler. Les femmes de Gaza prises au piège de leur traumatisme. À Gaza, les bombardements incessants, les déplacements et les privations ont engendré une catastrophe humanitaire. Vivant en état de siège et sous la menace constante de la violence, les femmes et les filles sont confrontées à des niveaux extrêmes de peur, de traumatisme et d'épuisement. Début 2024, plus de 1,9 million de personnes, soit près de 85 % de la population de Gaza, avaient été déplacées de force. Il n'y a quasiment aucun accès à l'eau potable, à la nourriture ou à l'électricité. Les systèmes de santé ont été décimés et 90 % de la population n'ont pas d'accès régulier à l'alimentation. Les systèmes d'assainissement se sont effondrés et les femmes et les filles sont piégées dans des abris surpeuplés, sans intimité ni service de base ou sécurité. Dans ces conditions, la détresse psychologique est très répandue. Les données d'ONU Femmes montrent que 75 % des femmes se sentent régulièrement déprimées, 62 % n'arrivent pas à dormir et 65 % souffrent de cauchemars et d'anxiété. Mais avec un accès limité aux soins, la plupart d'entre elles doivent se débrouiller seules. « Ma santé mentale et psychologique en pâtit », raconte une femme enceinte de 27 ans, mère de 3 enfants, originaire de Canyonès. « Parfois, je vais aux toilettes juste pour pleurer, jusqu'à ce que je me sente mieux. » Les femmes ne sont pas seulement confrontées à leur propre traumatisme, mais elles essaient aussi de s'occuper de leurs enfants. Parmi les femmes interrogées par ONU Femmes, 77 % devaient nourrir des enfants et s'en occuper. Je n'ai pas donné la priorité à ma santé parce que je suis la principale personne ayant la charge de mes enfants. J'assume à la fois les rôles de père et de mère, ajoute cette mère de 27 ans. La santé mentale des femmes de Gaza a atteint le point de rupture. Les femmes enceintes, les mères et les filles sont particulièrement vulnérables. La charge émotionnelle liée à la subsistance des familles pèse lourdement sur les femmes. La guerre contre la santé des femmes à Gaza n'est pas seulement physique. C'est une guerre mentale, émotionnelle et implacable. Vous écoutez Au cœur de la crise invisible, l'impact de la guerre sur la santé mentale des femmes, un texte de la rédaction paru le 7 avril 2025 sur le site ONU Femmes. La consommation d'antidépresseurs augmente chez les femmes déplacées de Géorgie. En Géorgie, face à des années de déplacement et de conflits, les femmes et les enfants se sont retrouvés dans une situation d'urgence en matière de santé mentale qui ne montre aucun signe d'amélioration. Environ 200 000 personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays et près de 40 % d'entre elles vivent dans des abris où les conditions de vie sont précaires, le taux de chômage élevé et les services limités. Le bilan en matière de santé mentale est lourd. Parmi les personnes déplacées, 23 % souffrent de syndrome de stress post-traumatique, 10 % de dépression et 9 % d'anxiété. Toutefois, seul un tiers d'entre elles ont eu accès à des soins. Beaucoup ne reconnaissent pas leurs symptômes ou se heurtent à des obstacles tels que le coût des soins, la stigmatisation ou le manque de services. Une étude a montré que le syndrome de stress post-traumatique la dépression, l'anxiété et les troubles comorbides contribuaient à une augmentation du handicap pouvant aller jusqu'à 16% chez les femmes et les enfants touchés par les conflits. Le problème de la santé mentale est très grave, surtout parmi les enfants, affirme Hélène Roussetskaya du Centre d'information des femmes de Géorgie. Lorsqu'ils vivent dans ces zones, ils entendent les voix des soldats ou le bruit provenant des tentes militaires situées à proximité, ce qui les affecte profondément. Même après l'arrêt des combats, ils ne bénéficient pratiquement d'aucun soutien psychologique. Nous avons vu un nombre très élevé de femmes dépendantes de médicaments, en particulier d'antidépresseurs, dans deux régions de Géorgie, ajoute Hélène. Lorsque nous avons comparé les données, nous avons constaté qu'il s'agissait précisément des zones où vivaient les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et les personnes touchées par le conflit. La corrélation est évidente. C'est un énorme problème. Son organisation s'efforce de combler les lacunes en réunissant des fonctionnaires, des ONG et des experts en matière de santé pour trouver des solutions pratiques. Ces femmes n'ont pas eu la possibilité de s'adresser à des personnes susceptibles de les aider, dit-elle. Aujourd'hui, nous leur donnons cette possibilité et une aide concrète peut leur être apportée. En Ukraine, les femmes sont confrontées à une montée en flèche de la violence familiale et de la dépression. En Ukraine, la guerre a fait reculer les femmes sur tous les fronts. La violence basée sur le genre a augmenté de 36 % depuis 2022. Les femmes effectuent davantage de tâches non rémunérées, jusqu'à 56 heures par semaine, rien que pour s'occuper des enfants. Et le chômage a grimpé en flèche. Cette situation nuit au bien-être des femmes. 42 % d'entre elles sont désormais exposées à un risque de dépression, et 23 % déclarent qu'elles-mêmes ou un membre de leur foyer ont besoin d'une aide psychologique. Les réfugiés déplacés, dont la majorité sont des femmes, sont confrontés à quelques-unes des pires conséquences que l'on puisse imaginer en matière de santé mentale. Les systèmes de soutien sont souvent hors de portée puisqu'ils fuient les zones rurales ou la ligne de front. Une enquête de l'OIM a révélé que 53 % des personnes déplacées en Ukraine souffraient de dépression. Et celles qui cherchent de l'aide n'en trouvent souvent que très peu. À cause des bombardements, mes enfants ne pouvaient pas dormir. Et nous étions tous épuisés, explique Snejana, une mère de famille d'Odessa. Jusqu'à la frontière, j'ai conduit avec les fenêtres ouvertes pour montrer que des enfants se trouvaient dans la voiture. Je n'ai vraiment pu respirer qu'une fois la frontière franchie. Les femmes issues de groupes marginalisés, notamment les femmes roms, les personnes LGBTQI+, et les femmes en situation de handicap, sont confrontées à des traumatismes supplémentaires et ont encore moins de possibilités d'obtenir du soutien. Les rôles traditionnels liés au genre accentuent la pression, car les femmes assument la charge émotionnelle de l'aide à leur famille en période de guerre, d'instabilité et de déplacement de population. En 2024, ONU Femmes a fourni une protection, une aide juridique et des soins psychosociaux à plus de 180 000 femmes et filles en Ukraine par l'intermédiaire du Fonds pour les femmes, la paix et l'action humanitaire. La santé mentale n'est pas un luxe. La guerre ne s'arrête pas lorsque les tirs cessent. Ces horreurs sont toujours présentes dans l'esprit des individus qui les ont subies. Pour les femmes et les filles vivant dans des zones de conflit, le soutien en matière de santé mentale n'est pas un luxe. Il est essentiel à leur rétablissement, à leur dignité et à leur survie. Les soins de santé mentale doivent être au cœur de toute intervention humanitaire, qu'il s'agisse de conseils en cas de traumatisme, de services communautaires ou d'espaces sûrs où les femmes et les filles peuvent entamer leur guérison. L'histoire montre que les progrès les plus importants des services de santé mentale sont souvent réalisés à la suite de situations d'urgence. Tous les pays doivent investir dans la santé mentale. Mais dans les situations de conflit, cette responsabilité devient encore plus urgente. Les voix des femmes qui ont vécu la guerre sont claires. Elles appellent à l'aide. Il est temps de les écouter. C'était « Au cœur de la crise invisible, l'impact de la guerre sur la santé mentale des femmes », un texte de la rédaction paru le 7 avril 2025 sur le site ONU Femmes.
Québec révise ses critères de résidence permanente pour les immigrants économiques. Un texte de François Carabin, paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir. Il est de nouveau possible, depuis début juillet 2025, d'emprunter une des principales voies d'accès vers l'immigration permanente au Québec. Et le gouvernement Legault a fixé de nouveaux critères de sélection. Comme annoncé en juin 2025 par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, Jean-François Roberge, le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, PSTQ, est rouvert. Québec transmettra de nouveau des invitations à présenter une demande de sélection permanente par le biais de ce canal, la principale porte d'entrée pour l'immigration économique au Québec. Suspendu depuis l'automne 2024, le PSTQ a été revu de fond en comble par le ministre Roberge au printemps 2025. Il en a publié les critères et le système de pointage dans la Gazette officielle du Québec. Les travailleurs déjà installés, avantagés. Comme il l'avait affirmé précédemment, le gouvernement priorisera les profils d'immigrants déjà établis au Québec dans sa sélection des futurs résidents permanents québécois. Une personne qui a travaillé plus de 48 mois au Québec obtiendra 160 points, le maximum atteignable, alors qu'une personne qui travaille en territoire québécois depuis moins d'un an n'en obtiendra aucun. Auparavant, un immigrant commençait à accumuler des points après 6 mois de travail en territoire québécois. Le total maximal de points accordé à ceux qui avaient occupé un emploi au Québec sur une durée d'au moins 4 ans était de 100. Avec ce nouveau système, le gouvernement de François Legault souhaite favoriser l'accession au statut de résident permanent de davantage de travailleurs déjà installés au Québec. Ceux qui parlent français et qui habitent à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal auront aussi de meilleures chances d'être sélectionnés. Un ressortissant étranger pourra en effet se voir accorder jusqu'à 200 points selon sa compréhension et sa production écrite et orale en français. S'il choisit d'immigrer avec un époux ou un conjoint de fait, ce dernier pourra contribuer au pointage qui sera toutefois de 160 au maximum. Une compréhension du français de niveau 1 à 4 sur 12 paliers ne produira aucun point. Les personnes immigrantes ayant séjourné, travaillé ou étudié à l'extérieur de Montréal toucheront également des points supplémentaires selon la durée de leur implication. Comme c'était le cas auparavant, les personnes plus jeunes se verront récompensées avec un pointage plus élevé, 100 points ou plus pour les moins de 33 ans. Celles qui ont un diplôme universitaire également, et d'autant plus s'il a été obtenu au Québec, 200 points pour un diplôme universitaire québécois de 3e cycle. Ni PEQ, ni parrainage collectif. toute personne souhaitant accéder à la résidence permanente par le biais du PSTQ doit déposer une déclaration d'intérêt à travers le système d'immigration ARIMA. Une fois reçue, celle-ci est classée selon le système de pointage en vigueur. À l'heure actuelle, le PSTQ est une des rares portes d'entrée accessibles vers l'immigration permanente. Le programme de l'expérience québécoise, PEQ, qui vise lui aussi à accélérer l'accession de diplômés et de travailleurs temporaires à un statut permanent, fait l'objet d'un moratoire. Il est donc impossible de déposer de nouvelles demandes. Même chose pour le programme de parrainage collectif. Jean-François Roberge affirme que ces gels permettront de respecter les cibles de sélection prévues au plan d'immigration du Québec pour 2025. Après avoir accueilli autour de 67 000 immigrants permanents en 2025, soit le seuil attendu, le gouvernement souhaite réduire radicalement ces cibles en 2026. À l'automne 2025, il soumettra à la consultation des scénarios de cibles à 25 000, 35 000 et 45 000 nouveaux arrivants permanents. C'était « Québec révise ses critères de résidence permanente pour les immigrants économiques », un texte de François Carabin, paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir.
Connaissez-vous bien les récoltes du terroir québécois? Un texte commandité, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. En été, le terroir boréal regorge de produits qui apportent une belle touche locale à la table. Plantes, légumes, fruits. Si certains d'entre eux sont consommés depuis toujours, d'autres restent peu connus des consommateurs et font doucement leur retour sur les étals. Et vous, connaissez-vous bien le terroir local et ses richesses? 1. La plus grande canne bergère au monde se situe au Québec. Vrai ou faux? Vrai. Il s'agit de Canneberge Bieler, B-I-E-L-E-R, fondée en 1984 à Saint-Louis-de-Blanford, dans le centre du Québec. Elle couvre plus de 1400 acres. La province est aujourd'hui l'une des trois plus grandes régions productrices de canneberge au monde, derrière le Wisconsin et le Massachusetts. La production locale a en effet explosé depuis les années 1990. La Toka, de son petit nom québécois, possède de nombreux bienfaits pour la santé. Il est par exemple très antioxydant, en plus d'aider à prévenir les infections urinaires et la carie dentaire. Ce petit fruit est désormais cultivé dans plus de 80 cannebergières au Québec. 2. À quoi le mélilot est-il souvent comparé? A. Au citron. B. À la vanille. C. Au piment. À la vanille. Souvent appelée vanille boréale ou vanille nordique, la fleur de mélilot dégage des arômes qui évoquent en effet l'amande, la fève tonka, le foin d'odeur et surtout la vanille. C'est une fois qu'elle est séchée que son parfum est le plus présent. Cette plante, qui peut se retrouver sur le bord des chemins, se consomme sous forme d'essence liquide ou de poudre. En cuisine, elle permet d'ajouter une touche locale aux recettes, notamment dans les desserts, les cocktails et même certaines bières, où elle remplace les gousses de vanille. 3. Les têtes de violon sont meilleures quand elles sont mangées crues. Vrai ou faux? Faux. Les têtes de violon, aussi appelées crosses de fougère, parce que oui, elles appartiennent à la famille des fougères, doivent être préparées avec soin avant d'être dégustées. Une cuisson à l'eau bouillante d'au moins 15 minutes est nécessaire, de même que le retrait des petites écailles qui les recouvrent. Une autre méthode consiste à les faire dégorger 24 heures au réfrigérateur, ce qui aide à éliminer une bonne partie des tanins responsables des intoxications. En outre, il faut cueillir les têtes de violon quand elles sont jeunes et que les feuilles sont encore enroulées. Une fois les feuilles déroulées, la plante n'est plus comestible. 4. Le thé du Labrador est aussi surnommé A. Plante de la paix. B. Thé boréal. C. Bois de savane. Bois de savane. Malgré son nom, le thé du Labrador ou bois de savane ne contient pas de théine. Au contraire, consommé en tisane, il est reconnu pour ses vertus relaxantes et apaisantes. Plante indigène typique de l'Amérique du Nord, le thé du Labrador pousse dans les zones fraîches et humides comme les sous-bois. Il possède un goût léger et délicat et se retrouve de plus en plus dans les cuisines des chefs québécois. Ses propriétés en font un bon allié contre l'insomnie, pour réguler le cycle menstruel ou encore pour stimuler la production naturelle de collagène dans la peau. 5. L'argouze est plus riche en vitamine C que l'orange. Vrai ou faux? Vrai. En plus d'être très riche en antioxydants, la baie de l'argousier est 5 fois plus concentrée en vitamine C que le kiwi et 30 fois plus que l'orange. Une vraie capsule d'énergie. Ce petit fruit oblong et orangé a un goût acidulé et vif. En cuisine, il est d'ailleurs une belle alternative locale au citron. Il se consomme en jus, en smoothie, en sorbet, en tisane, en confiture, en gelée. À l'instar de la canneberge, la sauce à l'argouze accompagne très bien les viandes. La plupart des cultures d'argousiers du Québec se trouvent dans l'Anaudière et la récolte des fruits commence en août. C'était « Connaissez-vous bien les récoltes du terroir québécois? » Un texte commandité paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.